Je ne sais pas si vous avez vu hier des images aux informations en passant des funérailles du prince Philippe. Hein? Mais donc c'était très très spécial puisque j'ai vu que des extraits de la cérémonie et c'était très bizarre parce que d'habitude un roi, une reine, un prince, il y a du monde, c'est de la folie, enfin il y a des grandes funérailles qui donnent aux morts et à cette mort-là espèce d'emphase et de caractéristiques un peu hors du commun. Et là, à cause des conditions sanitaires, ils étaient que 30 dans cette vaste abbaye. Et donc il y avait un prince par-ci, une princesse par-là. Et ça faisait que cet homme redevenait en fait un quidam comme nous. Donc, ce sont la paroi trompeur qui font penser que son destin est forcément différent du nôtre. Et puis il y avait un moment une image de la reine qui était toute seule, c'était incroyable, toute seule sur son banc. Et du coup, c'était plus une reine, c'était une très vieille dame qui avait perdu son époux, qui avait été témoin de 75 ans de sa vie, et qui, complètement ratatinée sur son siège, songeait. Sans doute que son tour n'allait pas tarder, parce qu'elle n'est plus très jeune non plus. Et ça donnait ce film-là comme une nécessité de revenir vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que même ces gens-là, dont on pense toujours qu'ils ont une vie à part, sont en fait des humains comme nous, et ils sont confrontés au moment de la mort au même doute. Et alors, il y avait des extraits des grandes pointures de l'église anglicane qui venaient pour faire la cérémonie. Et c'était toujours les mêmes mots qui revenaient. C'était amusant, les mots étaient sur BFM ou CNews, je ne sais plus, enfin qu'importe. Et c'était sous-titré. Et donc c'était bien, à une heure de grande écoute, comme ça, tu avais les mots foi, espérance, résurrection, Jésus, qui revenaient. Donc tout le monde pouvait les lire. Mais qui était lancé comme ça dans cette grande abbaye complètement vide devant quelques personnes qui finalement étaient confrontées comme nous, comme chacun d'entre nous, à cette obligation de la mort qui va frapper un moment ou l'autre. Et cette mort qui rôde, qui gagne a priori à tous les coups, c'est le thème de la fin du chapitre 5 des Romains que nous étudions aujourd'hui. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance parce que ça se termine bien, je vous rassure. Mais c'est vous dire comme c'est important ce thème-là et ce passage-là, parce que la mort, ça concerne vraiment tout le monde. Vous parlez de la foi des gens, etc. Mais non, ça ne me concerne pas, etc. Mais si vous embrayez sur le sujet de la mort, personne ne peut dire ça ne me concerne pas. C'est pas possible. Ça concerne tout le monde. C'est vous dire comme c'est très important. Alors, vous allez voir que c'est un texte compliqué, mais toute la lettre aux Romains est compliquée. De toute façon, dans notre Bible, il y a une grande partie d'histoire, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les Évangiles, les Actes des Apôtres, toute l'histoire de l'Exode, ce sont des histoires. Alors, qu'on peut ne pas toujours comprendre, mais enfin ça raconte quelque chose et qu'un début, un milieu, une fin, on peut en faire un film, on peut en faire une bande dessinée, on peut en faire plein plein de choses. Mais les lettres, les épîtres, on ne peut pas en faire grand-chose parce que c'est de la théorie. Enfin de la théorie. Théorie, ça veut dire que ce n'est pas forcément vrai. Enfin c'est de la réflexion. Ce n'est qu'un travail d'idées, de concepts. Et donc c'est forcément difficile. Et à un moment, nous chrétiens, on doit aussi se coltiner avec le difficile. On ne peut pas se contenter que des belles histoires. D'ailleurs, quand on parle aux gens qui ne sont pas chrétiens, la première chose qu'on fait, on leur dit, ben, lis l'histoire de Jésus, on leur raconte, et c'est vrai que c'est beau, ils sont émus, ils disent, c'est merveilleux, ça me prend, cet homme me dit quelque chose, il me bouleverse. Mais là, on est dans le domaine du sentiment, et c'est très bien. Mais à un moment ou l'autre, il faut passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est, mais qu'est-ce que ces belles histoires veulent dire? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit de profond sur l'idée même de notre humanité? On ne peut pas faire l'impasse de cette réflexion sur le sens de ce que nous sommes et de tout ce qui est sous-tendu par cette question-là. Alors c'est pour ça que je sais que certains, on peut se dire c'est un peu ennuyeux d'avoir une étude suivie d'une lettre aux Romains, par exemple, mais il ne faut pas la prendre comme un pensum, non, à nous de vous la rendre agréable à entendre, mais il faut la prendre comme une nécessité, parce que ça parle de l'essentiel, ça parle de ce que nous sommes et de comment nous devons vivre notre foi surtout, et pourquoi nous avons cette foi-là. Donc c'est difficile parce que c'est important. Et cette lettre aux Romains, ça a été dit depuis le début, c'est l'exposé le plus complet que les Écritures donnent de la doctrine du salut par la foi. Rien que ces mots-là, ça ne devrait pas nous dire « Oh zut, ça va repartir sur un truc ennuyeux ». Non, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est que nous sommes condamnés sinon. Et par la foi, dire la foi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la foi? En quoi? C'est le fondement de notre croyance. C'est la raison de notre présence ici chaque dimanche. Et c'est pour ça qu'il faut s'y atteler, s'y intéresser, et non pas comme une figure imposée pour que le reste passe bien, parce que c'est l'essentiel. Et que pour comprendre les belles histoires de Jésus ou de toute la Bible, ces belles histoires n'existent que parce qu'elles sont sous-tendues par cette nécessité de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ce que Paul essaie de faire. Avec talent, évidemment, parce que c'est pas n'importe qui. Donc pour arriver à ce que nous allons voir aujourd'hui, il a fallu 5 chapitres. Alors très rapidement, parce qu'il faut toujours résumer pour comprendre, pour ceux qui ont oublié les épisodes précédents, donc vraiment quelques lignes. Donc Paul annonce dans le chapitre 1, le sujet de sa lettre, c'est la justice de Dieu par la foi. C'est-à-dire que nous ne sommes sauvés que par la foi en lui et non pas par nos œuvres. Ça, c'est la base générale. Et son raisonnement donc, a débuté dans le chapitre 1, chapitre 2, par la démonstration de l'universalité du péché. Tous ont péché, il n'y en a pas un de bien. Et cette culpabilité de tous étant démontrée, il annonce l'évangile. Maintenant, Dieu rend juste tout être humain par sa foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il prend assez longuement l'exemple d'Abraham pour valider ça. À quel moment Abraham a-t-il été justifié par Dieu, avant ou après sa circoncision? Ou autrement dit, avant qu'il connaisse et pratique la loi, alors à quel moment lui a-t-il obéi? La réponse est, vous le savez, Abraham a été justifié alors qu'il n'était pas circoncis. Ainsi, conclut l'apôtre, ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on est justifié, mais par la foi dans le don de Dieu. Donc, Abraham est le père de tous ceux qui sont justifiés par la foi seule et non par les œuvres. C'est-à-dire, nous aussi, si nous avons la foi d'Abraham. Et cette justice divine, donc tout ça est arrivé, et c'était le dernier chapitre mené par Manu, cette justice divine que nous recevons par la foi, et qui concerne tout le monde, juifs comme les non-juifs, elle a des et même pour ceux avant la loi, parce qu'avant la loi, on avait vu que chacun avait dans le cœur la pensée exacte de ce qui était bien et de ce qui était mal. Cette justice divine a des conséquences pratiques, il y en avait 5 ou 6 que Manu a dévoyées, dont les 2 principales, à celui qui croit, ça donne la paix avec Dieu, et l'assurance de notre salut. Et on arrive à la deuxième partie du chapitre 5, qui va plus loin encore. Que Paul étant quelqu'un de raisonné, de raisonnable, tout ça se met en place de façon pyramidale. Et la suite du chapitre 5 va plus loin encore parce qu'elle remonte à la source même du problème dont il parle depuis le début, cette histoire de foi. Et je pourrais dire, enfin, on arrive à la source du problème. Comme si tout avait été reculé jusque-là, c'est la fameuse histoire de la mort. Quand on parle avec les gens, justement, la mort, on l'évacue tout le temps, on parle d'autre chose, mais il faut bien arriver à cette vérité-là. Donc, j'essaie de reprendre son raisonnement pyramidal. S'il y a besoin de la justice de Dieu, si on a besoin d'être sauvé de quelque chose, c'est qu'il y a eu une faute, c'est qu'il y a un péché quelque part. Et cette justice de Dieu donc, s'obtient par la foi, non par les œuvres. Elle est disponible pour tous, non seulement pour les juifs, car la loi est inscrite dans le cœur de tous les hommes, consciemment ou non. Mais, en disant ça, on refait la boucle, d'où vient le péché? Parce que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de Jésus, il n'y a pas besoin de sa grâce. Donc, il faut revenir à la base qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul enclenche une nouvelle fois la machine à remonter le temps. Au chapitre 3 ou 4, il était remonté jusqu'à Abraham. Mais Abraham, en fait, n'est qu'une conséquence. La cause de tout est plus éloignée encore. Et c'est dans ce chapitre 5 qu'il remonte à Adam. On ne peut pas remonter plus haut. Donc on sent bien que s'il remonte à Adam, c'est qu'on est au cœur de la machine. Adam, le premier homme. Il faut donc remonter jusqu'à la genèse de tout notre monde. Alors, je comptais relire, mais bon, je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, il faudrait relire les débuts de la Genèse, où vous savez que tout est parfait. Je lis, mais je vais quand même le relire, parce que faire un résumé, c'est un peu... Je vais dire que les moments... 1.31, simplement, quand Dieu termine ces six jours, ces six périodes, il est écrit en 31, « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Et toute la suite du chapitre 2 vont nous montrer qu'en effet, tout est bon. Il crée l'homme, puis il crée la femme à partir de l'homme. Tout se passe bien, tout est ok, le monde est parfait. Adam et Ève vivent avec Dieu une relation permanente. Une relation parfaite de confiance et de lien d'échange quotidien, si je peux mettre le mot quotidien, dans cette histoire. Puis, dans Genèse 3, vous savez ce qui se passe, c'est la chute, l'histoire de l'arbre, de fruits du bien et du mal, et c'est là que tout commence. Donc c'est de ça. Toute cette histoire, je ne vais pas la relire, je vois que des visages ici qui connaissent parfaitement cette histoire de la Genèse. Mais ce dont va parler Paul dans son chapitre 5, en faisant référence à Adam, c'est de cet épisode-là, le passage de Adam, créature de Dieu, première créature de Dieu, aimée de Dieu, à Adam, rebelle, Adam qui déserte Dieu, qui ne lui obéit plus, et qui du coup perd cette relation. On sait que Dieu, évidemment, plus tard, beaucoup plus tard, donnera les 10 commandements par Moïse. Mais en fait, c'est la seconde tentative de la loi, le second don de la loi. La première fois, il y a première loi qui s'est passée, ce n'est pas les 10 commandements, c'est à l'origine, c'est le commandement zéro, comme le patient zéro de notre cher Covid. C'est dans Genèse donc 2, 17, où quand il plante... les arbres, etc. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est le commandement zéro qui est au début de la construction du monde et de la construction de l'humanité. Et on a tendance à l'oublier, celui-là. Paul, lui, ne l'oublie pas. Et c'est ce commandement-là qui a été transgressé. Paul dira plus tard que c'est la loi qui fait jaillir la faute, c'est parce qu'on sait que c'est interdit que du coup on transgresse. C'est-à-dire si vous roulez à 140 à l'heure, mais qu'il n'y a pas d'interdiction à dépasser les 130, vous n'êtes pas fautif. Par contre, si on vous dit que c'est interdit de rouler à plus de 130, puisque vous roulez à 140, vous devenez fautif. C'est la loi qui crée la faute en quelque sorte. Et ce commandement zéro, il a été transgressé. La faute est entrée dans le monde à ce moment-là. Et pas n'importe quelle faute. C'est, on voit dans Genèse 3, verset 4, le serpent dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Si tu manges de ce fruit, vous serez comme Dieu. Ça veut dire que si je serai comme Dieu, si je suis Dieu, je n'ai plus besoin de relation avec mon Créateur. Je pense me suffire à moi-même. C'est exactement le contraire de la foi. Si je me suffis à moi-même, que je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de croire quelque chose, d'espérer en une autre relation, en quelqu'un d'autre qui va m'aider, qui va me faire du bien. Je me suffis à moi-même. C'est ça le péché. Le premier péché, celui du commandement zéro. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je suis indépendant. Je suis autonome. Je suis émancipé. Je suis moi-je. Et ça, c'est le monde depuis la nuit de l'histoire. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est ce que nous répondent nos contemporains. Et l'Épître aux Romains, quand il parle d'Adam, ne parle pas d'un vieux truc. Il parle de nous. Il parle de tout ce à quoi nous sommes confrontés. Nous sommes entourés que de moi-je qui essayent chacun de faire leur propre petite cuisine pour que ça fonctionne à peu près. Et ensuite, chacun met sa foi là où il a des trous dans son moi-je. Et ces textes de Paul, ces vieux textes de la Genèse, ne répètent que l'éternelle question de toutes les générations d'humains qui se présentent sur Terre depuis très très longtemps. Qu'est-ce que je fais de mon moi-je? Est-ce qu'il suffit? Est-ce que j'ai besoin d'avoir foi en quelqu'un d'autre parce que je sens que ce moi-je ne me permet pas d'aller au bout de ma compréhension du monde et de ce que je ressens au fond de moi? Et la conséquence de ce refus de Dieu, qui est le péché, qui est la faute suprême, mais tous les péchés qui vont, toutes les fautes qui vont découler dans toutes les vies viennent de là. C'est-à-dire que si on regarde Dieu et qu'on se rapproche de lui, déjà il y a plein de choses qui tombent et qu'on ne fait pas comme erreur. Donc cette faute fondamentale, elle a une conséquence qui est indiquée dans le texte, c'est la mort. On l'a lu dans Genèse, donc tu mourras. On peut aussi le lire, donc ça, c'est le début dans notre Romain que nous étudions aujourd'hui. C'est la fin du verset 13 et le début du verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ouais, bon, enfin, c'est pas très important. Je pensais que c'était plus riche. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que il est dit très concrètement que cet éloignement de Dieu, ce moi-je mis en place et ce refus de lui, c'est ça qui provoque immédiatement la mort de l'espèce humaine au bout de son existence. Là, on est dans le dur, vraiment, parce que la mort, c'est la cause de tous les cultes, de toutes les religions, de toutes les ambitions, donc de toutes les atrocités de l'être humain. Parce que s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la terreur du temps qui s'écoule au fond de nous, donc avec la nécessité du coup de jouir, de profiter avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on va essayer d'écraser l'autre, qu'on va essayer de penser d'abord à soi pour avoir un peu de ce qu'on peut espérer prendre dans les quelques années où l'on est sur Terre. Si on avait le temps, si le temps ne comptait pas pour nous, s'il n'y avait pas une fin brutale, on n'aurait aucune raison de se battre, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tout nous tomberait. On aurait ce que l'on veut, puisque le temps ne serait pas contre nous. C'est le temps qui nous rend ce que nous sommes. Le temps fini. Et ce temps fini, il existe parce que, évidemment, il y a la mort en fin de course. Avec Adam, le premier homme, notre ancêtre à tous, le péché est entré dans l'humanité. Le péché, donc, c'est moi-je, pas toi. En parlant d'Abraham au chapitre 4, Paul, il parlait à ses lecteurs du peuple élu. Donc, déjà, ça pouvait être compréhensible, c'était pour les Juifs, parce qu'eux, ils avaient bien compris qu'Abraham, pour eux, ça voulait dire quelque chose. Mais en parlant d'Adam au chapitre 5, comme il va le faire, Paul nous parle du père de l'humanité. Et du coup, si on en doutait encore, cette lettre nous concerne tous, puisque nous ne sommes peut-être pas tous les fils et les filles d'Abraham, mais nous sommes tous les fils et les filles d'Adam. Et c'est en ça que ce passage est absolument fondamental, et que si on devait lire qu'un passage à des gens qui s'intéressent à notre foi, c'est peut-être celui-ci qu'on devrait lire, parce qu'on est tous ramenés au même début, à la même genèse. Nous sommes tous des fils et des filles d'Adam. Alors, avec cette grande introduction, on va maintenant prendre les quelques versets de ce chapitre et on va essayer de les expliquer. Mais j'en ai déjà expliqué beaucoup. Alors, c'est assez difficile, c'est des phrases qui, je vous dis, qui ne jouent que sur des idées, sur certaines redites. Mais je vous en supplie, ouvrez-les, prenez-les comme on dit, parole d'évangile, quoi. Comme quelque chose qui donne le sens à notre présence ici, et qui va au cœur de notre préoccupation. Si je ne sais pas que je vais mourir, je serai jamais devenu chrétien, ça ne m'intéresse pas. Alors, on commence déjà par un verset qui est le plus compliqué et dont les théologiens, sur lesquels les théologiens ne se mettent pas d'accord, c'est le 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, ce verset-là, surtout la fin, parce que tous ont péché, déjà c'est une traduction qui est contestable. En fait, il y a deux traductions possibles. C'est par un seul homme le péché est entré dans le monde, car en lui, Adam, tous ont péché. Ou bien c'est celle-ci, par un seul homme le péché est entré dans le monde parce que tous ont péché. Alors nous ne nous étonnons pas de voir celle-ci parce que c'est une traduction protestante. Ce n'est pas comme ça que les catholiques le traduisent. C'est en lui, Adam, tous ont péché. Et donc, on doit cette traduction, enfin cette vision des choses à saint Augustin, le père de l'Église, un des pères de l'Église. Et alors pour eux, de dire que c'est en Adam nous avons péché, alors je vais dire quand même très très rapidement, parce que c'est des choses dont on est en extérieur, ça renvoie à la notion de péché originel. Vous avez dû entendre ça, le péché originel, c'est-à-dire que tous, par la faute d'Adam, nous sommes nés avec un espèce de gène qui est le péché. C'est-à-dire ça y est, Adam ayant fait le grand péché dont on a parlé, eh bien, il nous a transmis comme un gène cette petite sale bête qui nous poursuit et que l'on transmet à nos enfants et aux enfants de nos enfants, etc. D'où cette théorie, le baptême des enfants, évidemment. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau-né naît dans l'Église catholique, il faut immédiatement le baptiser parce qu'il porte en lui ce gène terrible, donc il n'a même pas à réclamer. Et donc, en le baptisant, on permet que si malheureusement la mort le prend rapidement, eh bien, il sera sauvé. Bon, c'est une autre problématique. Je dirais juste que dans d'autres passages, il est dit que Jésus est venu pour ne perdre aucun de ses enfants et qu'on peut imaginer évidemment que cette théorie d'un enfant coupable par nature serait en contradiction avec beaucoup d'autres textes. Mais ce qui est intéressant dans cette traduction, celle que je vous ai donnée, c'est qu'elle accentue la dimension collective de l'humanité confrontée au péché. C'est-à-dire, on est tous des fils d'Adam et Ève et on a tous reçu, non pas le vaccin de la Covid, mais on a reçu le péché de base qui nous éloigne de Dieu définitivement. Alors, si on prend la traduction numéro 2, qui est plutôt celle-là, elle voudrait dire que les hommes meurent parce qu'ils ont personnellement péché, et non parce qu'ils sont coupables de la faute d'un ancêtre. Le problème de cette traduction, c'est qu'elle supprime le caractère collectif de l'humanité face au problème du péché et de la mort. Ça veut dire que, d'après cette interprétation, chacun supporterait les conséquences de ses propres fautes, ce qui conduirait à croire que le salut est aussi dépendant de notre action personnelle. Et c'est justement la conclusion que Paul veut éviter. Si on considère que c'est notre boulot qui fait la différence, À ce moment-là, on a tendance à remettre les œuvres en avant et non plus la foi. Et puis dans la réalité, c'est souvent faux, les rapports faux de conséquences entre ce qu'on a reçu, ce qu'on n'a pas reçu, ça dépend des vies personnelles. Donc déjà, rien que sur le premier verset, vous pouvez ouvrir des dizaines de livres, etc., vous verrez que c'est le verset qui pose un gros gros problème. L'intérêt de ce texte-là, quelles que soient les deux traductions qu'on peut choisir, elle n'est pas dans la recherche des causes du malheur des hommes. L'apôtre veut sans doute rappeler simplement que les êtres humains sont indissociablement unis dans leur histoire et leur destinée. Nous sommes tous mortels. C'est ça qui est important. Et pour rappeler que tous les êtres humains sont indissociablement unis dans leur destin, il les rassemble tous en un seul, il nous rassemble tous en un seul homme, Adam, l'ancêtre commun. On ne peut en tirer des conclusions telles que l'héritage d'une culpabilité. C'est faire dire au texte quelque chose qu'il ne dit pas. Tout au plus, on pourrait dire, au regard de la réalité des hommes, et on le voit autour de nous, que ceux-ci, donc nous, semblons naturellement égoïstes et désireux de faire notre propre loi. Et Adam est le signe de cette nature que nous portons en nous. Alors, on se demande pourquoi Paul, après Abraham, utilise ce personnage biblique, parce que ça permet à Paul d'introduire une autre personne, le Christ. Et c'est dès le verset 14, donc il introduit, donc cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle de Moïse, d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Une figure inversée. En parlant d'Adam, qui fait entrer la malédiction dans l'espèce humaine, il peut faire apparaître Jésus, qui lui fait apparaître la vie éternelle dans l'espèce humaine. Ce sont deux figures inversées, l'une a besoin de l'autre en quelque sorte pour exister. S'il n'y a pas Adam qui commet le péché zéro, si je puis dire, il n'y a pas besoin d'avoir Jésus. Si Adam ne nous fait pas descendre très bas, il n'y a pas besoin que Jésus monte très haut pour pouvoir nous rattraper. Alors, c'est écrit d'une façon un peu bizarre, c'est qu'il y a le verset 12 qui ensuite, en fait, a sa conclusion au verset 18. Donc je vais dire les deux à la suite. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Adam. Et si on passe directement au verset 18, en fait, le reste n'est qu'une parenthèse. Ainsi donc, comme par une seule enfance, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ces deux versets, en fait, forment une seule phrase. On passe d'Adam à Jésus. Et c'est l'idée maîtresse de Paul, c'est de relier ces deux personnages. Les deux sont chefs d'une famille. Le premier, c'est le chef de la famille humaine tombée dans le péché et la mort. C'est la race ancienne. Le second, c'est le chef de famille, le chef de la famille humaine des rachetés. C'est la nouvelle race. Par un seul acte, chacun des deux a entraîné toute l'humanité dans son sillage. Adam, par son acte de désobéissance, nous a entraînés vers la mort. Et Jésus, par son acte d'obéissance vis-à-vis de son Père, nous a entraînés vers la vie. C'est comme si Adam, en fait, c'est un roi qui a signé un traité de guerre. Comme tous les rois, quand tu signes un traité de guerre, eh ben, tu engages tout ton peuple. Même ceux qui étaient tranquilles chez eux, forgerons ou épiciers, ils n'avaient pas envie de faire la guerre. Mais si, mon vieux, c'est signé, 14-18, tu prends ton pactage, tu sors de ta province et tu vas te faire tuer au chemin des dames. Tu suis, tu n'as pas le choix. Jésus, c'est quand vous lisez Deutéronome, vous allez voir que quand Jésus dit « vous installerez au pays de Canaan », ben pas Jésus, Dieu, vous m'avez compris. Il dit « par contre, vous installerez certaines petites villes où les gens qui auront tué quelqu'un par accident pourront se réfugier et vous ne pourrez pas les pourchasser ». Eh bien, Jésus, c'est le roi qui autorise l'existence de zones franches dans un monde brutal et perdu, où celui qui s'y rend de son plein gré ne peut être poursuivi. Le traité de guerre d'Adam concerne tout le monde, tout son peuple. Obligé, t'as pas le choix. Alors que la zone franche de Jésus, elle existe pour ceux qui acceptent de s'y déplacer, de s'y rendre et de reconnaître que là, ils sont protégés. Dans le premier cas, tu subis la loi. Dans le deuxième cas, tu fais l'effort d'accepter la proposition de sauvetage qui t'est proposée. Il est important de voir que Dieu n'a pas cherché à améliorer ce qu'on appelle la race adamique, c'est-à-dire nous. Il n'a pas dit « je vais faire un effort ». On va essayer, oui, ils vont faire des efforts. Parce que la loi, on pourrait croire que c'est une tentative de la rendre meilleure, oui. Mais c'est une tentative vaine, on le sait et on l'a vu. Et comme c'était dit plus tôt dans Romains, en fait, la loi n'est là que pour révéler les erreurs et les fautes des hommes. C'est comme si un écrivain écrivait un livre et que l'éditeur avait fait des fautes de frappe qui faisaient que le texte ne voulait pas dire exactement ça à certains moments. Alors vous aurez beau changer la reliure, changer la police de l'écriture, etc., de refaire, de l'éditer en grand, en petit, dans toutes les langues du monde, les fautes de frappe, elles resteront. Et Jésus, il n'est pas venu en disant, bon, alors on va reprendre le livre, et puis là on va corriger, on va mettre un E, un A, etc., pour que le sens revienne. Non, il a pris ces livres-là, il les a mis au feu, il a dit, je vais faire un nouveau livre. Adam, c'est nous, c'est le mauvais livre qui est irrattrapable, qui n'est pas transformable petit à petit, entre autres par le biais des œuvres. Jésus, il est venu écrire le nouveau livre. Alors, les versets, donc entre 12 et 18, je vous ai dit que c'était une incise, il y a donc 5 versets qui vont en fait être un perpétuel balancier entre Adam et Jésus. Comme il y a la grâce surabondante de Jésus, plus Adam nous fait tomber bas, plus Jésus donne une grâce qui surabonde et qui nous donne encore plus de possibilités de s'en sortir. Alors, je ne vais pas reprendre exactement, vous pourrez le lire à la maison, mais ça donne plusieurs cas qui vont dans le sens de ce que je viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver, de revenir au verset 18 et de revoir certains termes. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, c'est une traduction, je me suis renseigné, a priori ça correspond au verbe grec. La condamnation atteint tous les hommes. Quand on est atteint par quelque chose, on n'a pas le choix. Alors que l'acte de justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. S'étendre, c'est quelque chose où tu vas être dans la zone, mais à toi d'aller prendre ce qui s'y trouve. Le verset 19 va aussi poser un autre problème, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors là encore, il y a le problème du mot « beaucoup », puisque la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Non, c'est tous ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors ça, là oui, beaucoup, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Alors là, il paraît-il que dans les écritures grecques, enfin dans le style de Paul, c'est une espèce de balancier entre le beaucoup, beaucoup, qui est traduit d'ailleurs autrement dans d'autres, qui est plusieurs, plusieurs, et qui n'aurait pas le même écho que nous en français sur ce que cela veut dire. Mais là, je ne suis pas assez fort pour aller plus loin, puis ça serait peut-être un peu trop compliqué. Je laisse à d'autres le besoin de le dire. Mais que ce verset-là, en tout cas, ne vous fasse pas de mal. Le premier « beaucoup » veut dire « tous », et le deuxième veut dire « certains ». Mais l'idée qui ressort quand on relit ceci, c'est que Nous sommes dans notre vie terrestre participants des deux races. Nous sommes autant de la race adamique qui a dit non et qui dit moi je. Et nous, aujourd'hui, chrétiens, nous sommes aussi participants de la race de ceux qui sont enfants de Jésus, enfants de Dieu. Comme la graine contient la fleur, nous contenons le vieil homme et le nouveau, l'outre neuve et l'outre ancienne, la nature condamnée et la nature sauvée. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette parenthèse entre Genèse et Apocalypse, entre Genèse et Révélation, nous sommes un peu des deux. Et nous le savons. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat de Romains sur les bonnes œuvres. Parce que si, dès qu'on était avec Jésus, off, il n'y avait plus de soucis, et on était totalement sortis d'affaires, et on était la nouvelle créature d'emblée, le nouveau livre dont je vous parlais, édité sans aucune erreur, ça serait parfait. Mais ce n'est pas le cas. Parce que notre gène adamique, sans aller jusqu'au péché originel, il est là. Et on va le traîner jusqu'à la mort. Parce que la condamnation, elle a été donnée une fois pour toutes et on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce que dit ce passage de Romains, c'est que nous avons les deux. Ne fermons pas les yeux sur notre première. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous les quatre premiers chapitres. Il dit, mais vous êtes tous coupables, mais vous avez tous au fond de vous la conscience du bien, du mal, etc. Ne l'oubliez pas. Mais ne croyez pas que parce que vous me connaissez simplement en faisant des bonnes œuvres, ça va suffire. Devenez participants de la deuxième nature qui est en vous, celle que je vous donne. Celle qui fait que quand on est à l'hôpital, on va pleurer d'un côté, on va avoir peur, on va dire c'est quoi cette horreur. Mais de l'autre côté, on va se lever, on va prier et il va se passer quelque chose. Et notre chemin sur terre, le temps qui va durer, il va être toujours entre ces deux-là. Mais soyons heureux de se dire que par la grâce de quelqu'un qui un jour nous a parlé de Jésus, par la grâce des rencontres qu'on a pu faire, de la transmission de ce livre, nous sommes aussi participants de la seconde nature. Parce que ceux qui ne sont que dans la première, mais c'est une horreur. La race adamique, que elle, c'est une vie épouvantable, et c'est la vie du monde autour de nous, auquel nous sommes aussi confrontés, et parfois dans laquelle nous retombons, nous rechutons. Et c'est la foi qui nous a fait passer d'une race à l'autre. Ce ne sont pas les bonnes œuvres. Par contre, une fois qu'on est passé, qu'on a conscience, par notre foi d'être passé dans la deuxième vie, d'y commencer à y rentrer, ne pas mettre en place des œuvres de qualité, c'est une honte. C'est avoir le beurre sans vouloir payer la pâtissière. Enfin, je connais pas l'expression, mais vous avez compris. Je veux dire. C'est pas possible. Et c'est ça que dit Paul depuis le début dans Romains. Soyez intelligents. Jésus vous a tout donné. Mais montrez-le, et ça ne devrait même pas vous coûter. Alors quand vous avez les vieux réflexes de la race adamique qui revient, c'est normal. Mais luttez, priez, encouragez-vous entre frères et sœurs pour progresser. Et c'est pour ça que, plutôt, il parle aussi du jugement, puis il le redira plus tard. Mais qui êtes-vous pour juger l'autre? Vous êtes tous des petits Adam. Au lieu de vous juger, aidez-vous, essayez de comprendre ce qui s'est passé pour que la balance entre le Adam et le Jésus qui est en vous, si on veut prendre cette image-là, ça, que le pourcentage monte d'un côté et baisse de l'autre. Mais quand on a lu ça et compris l'histoire d'Adam, etc., comme Paul le dit, mais qui va aller protester contre son frère? Autrement que gentiment, avec amour. Écoute, là, je pense qu'il y a un problème parce que c'est pas en correspondance. Mais je te dis pas ça comme un juge, je te dis comme un descendant d'Adam comme toi, un héritier de Jésus comme toi. Sauf que là, t'as les yeux vers le bas, t'as pas les yeux vers le haut, et tu te plantes. Ça, oui, on peut l'entendre. Surtout que nos plantages à nous, entre nous, ils nous font des dégâts à l'extérieur. Parce que là, dès qu'ils peuvent nous mettre une poignée d'Adam sur la tête, ils ne vont pas se gêner. Ils auront raison. Elle est là, notre responsabilité. Et l'épître aux Romains, finalement, elle dit que ça, après.
Je mettrai ma loi dans leur cœur.
Je mettrai...
Donc, c'est plus la loi écrite. C'est...
Absolument. Merci. Enfin, on arrive au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors ça, c'est... La loi augmente la désobéissance, on en a parlé. Elle aggrave la condition du pécheur en définissant la faute, en multipliant les offenses par le fait de nature humaine, bravant les interdits. Mais paradoxalement, je vous en parlais, la loi met en exergue encore plus la force de la grâce qui est leur surabonde. Vous savez, il y avait une pub il y a très très longtemps, il y avait des gens qui préparaient des gâteaux, espèce de Nutella, puis il y avait un gars qui arrivait, pof, donnait un coup, il y avait plus de cacahuètes qui tombaient. Vous vous souvenez, hop, plus de beurre, c'est monsieur plus, cacahuète plus, je ne sais plus. Et à la fin, tu avais une crème au chocolat qui était géniale. Ben Jésus, si tu me permets, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais le péché, etc. Hop, il vient te donner un coup et t'as... Pff. Donc tu n'as pas juste le pardon de ce que tu as fait, tu as le pardon fois 10, fois 1000, fois 100. Et vous verrez, il est dit dans les versets plus tôt que... Je peux vous le lire, au verset 16, « Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. » C'est-à-dire qu'il a suffi d'une seule faute d'Adam pour qu'on soit condamné. « Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » C'est-à-dire qu'on peut offenser, suroffenser, reoffenser. Et le salut, le pardon sera toujours présent. Et enfin, on termine par le verset 21. Qui est absolument magnifique, qui est la conclusion parfaite, qui renvoie à ce qu'on a lu sur la Genèse. Ce verset qui dit que la grâce n'est pas une fin, elle conduit par sa justice à son accomplissement la vie éternelle, le voici, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire tout ce qu'on dit depuis le début dans cette épître, ça, c'est pour mener à la vie éternelle. C'est-à-dire, tout mène à ça. Tout est parti de la mort. Et tout l'opération sauvetage est non seulement pour nous rabibocher, mais pour nous faire des êtres nouveaux qui vont bénéficier de la vie éternelle. Et là, il faut se rappeler, et je terminerai sur ça, ce qu'on avait lu dans Genèse, enfin, je n'ai pas lu, mais que vous connaissez, dans Genèse 2, 9, vous vous souvenez qu'il plante plein d'arbres, Dieu. Et il y a l'arbre de vie, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il dit, tu peux manger tous les fruits, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pas l'arbre de la vie. Celui-là n'était pas interdit de consommation. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'était pas? Parce que dans la relation parfaite avec Dieu, qui était vécue alors, avant le péché zéro, la vie éternelle, elle faisait partie du package. Ça ne posait pas de problème. Mais dès l'instant où la relation est détruite, en ayant consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui fait devenir comme Dieu, ça veut dire qui fait devenir sans Dieu, alors la vie éternelle devient interdite. Parce que ça, Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un qui le renie, quelqu'un qui le repousse, puisse avoir droit à la même prérogative d'éternité que lui. Et c'est pour ça que dans Genèse 3, 22, il est dit, une fois que Dieu a vu l'erreur d'Adam, il le chasse du jardin, et il dit surtout pour pas qu'il s'approprie l'arbre de la vie. C'est le dernier rempart pour que l'homme ne prenne pas complètement la place de Dieu. Mais avec Jésus, devenu le chef de la famille des rachetés, des justifiés par leur foi, arrachés à la famille maudite des descendants d'Adam, le retour de la consommation de l'arbre de vie est possible. C'est ce qu'il nous dit. Puisque on a réussi de nouveau par votre foi, grâce à mon sacrifice, à réinstaurer entre vous et moi La relation du jardin d'Éden. Pas encore parfaite, d'accord, mais ça y est, on est en chemin, puisque votre foi a fait ce chemin-là vers moi. Moi qui fais le chemin vers vous, à ce moment-là, eh bien l'arbre de la vie, il est de nouveau à votre disposition. Il nous rouvre le jardin d'Éden. Et c'est marqué dans ce verset 21, la récompense de la foi, c'est la vie éternelle. Et vivre avec Jésus, nous les chrétiens, c'est avoir retrouvé le jardin d'Éden, là où tout était très bon. Sur terre, nous n'en vivons que les prémices, car nous sommes tous des descendants d'Adam, tant que nous sommes ici-bas. Alors, la différence est que la mort sera pour nous non plus une condamnation comme elle a été pour Adam, mais une libération qui va nous délivrer de ces gènes ancestrales adamiques qui nous retiennent encore pour devenir parfaitement des enfants de Dieu. Là où tout était très bon. Il y avait un disque de mon groupe préféré de ma jeunesse, c'est le groupe Genesis, comme ça. Leur premier disque, c'était « From Genesis to Revelation », de la Genèse à la Révélation, ou de la Genèse à l'Apocalypse. C'est exactement ce que nous vivons, nous. Nous sommes arrivés au milieu du monde, grâce à notre envie de connaître les choses, nous avons été en connaissance de ce que raconte la Genèse. La foi nous permet de dépasser cette condamnation première et de faire tout le chemin avec Jésus jusqu'à l'Apocalypse, la révélation de ce monde nouveau où nous serons enfin des êtres nouveaux, le nouveau livre qui permettra de nous débarrasser totalement de cet Adam qui nous pourrit la vie à tous. C'est ça, Romains 5. Donc, quand vous le relirez, essayez de le relire avec cet éclairage qui, du coup, en fait non plus un livre barbant et théorique et qui ressasse des idées seulement intello. Non, c'est notre vie qui est en jeu. Et s'il y a quelque chose à dire aux gens qui nous interpellent sur notre foi, c'est sans doute ça. Donc Romains est essentiel. C'est compliqué, mais c'est essentiel. Et quand on le comprend, c'est une source de bonheur extraordinaire que Dieu ait donné à Paul la force et l'intelligence d'écrire ça, parce que ça éclaire tout notre parcours sous un autre jour. Et les nouveaux chapitres qui vont arriver avec Yann et Manu, écoutons-les avec le bonheur de se dire c'est absolument fondamental. C'est ce qui donne sens à notre présence ici. Je vous remercie.